Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous. Troisième rendez-vous déjà cette saison avec les Fous du Volant. Je suis Gilles Delaposta et en compagnie de mon camarade Stéphane Vrignot, on va tirer les enseignements de la manche d'ouverture du championnat du monde de Formule 1 2021. Ce podcast, les Fous du Volant, est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. De cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, aujourd'hui, je te propose d'évoquer évidemment la victoire de Lewis Hamilton avec une question. Est-ce que Mercedes est un vainqueur en sursis après cette manche d'ouverture? On essaiera d'évoquer cette problématique. On parlera également des limites de la piste qui ont fait débat pendant ce Grand Prix de Bahreïn, avec une règle un petit peu floue. Il y a une zone grise, comme dirait Christian Horner. On va faire travailler, nous, notre matière grise, justement, sur ce point. Et puis, on va passer du gris au rouge, si tu le veux bien, Stéphane, pour le dernier point qu'on évoquera, avec la Scuderia Ferrari, du mieux, avec les 6e et 8e places de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Eh ben, on a cherché à savoir si c'était vraiment, vraiment mieux du côté de la firme Au Cheval Cabré.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On débute donc cette édition des Fous du Volant en parlant de Mercedes. Le miracle Mercedes, un vainqueur en sursis. C'est la question qu'on va évoquer parce que donc Lewis Hamilton s'est imposé sur ce Grand Prix de Bahreïn, devant Max Verstappen et devant Valtteri Bottas. Rien de nouveau sous le soleil, ou plutôt sous les pylônes électriques du circuit de Sakhir. 96e victoire hein, pour Lewis Hamilton. Si, parce que le contexte était vraiment différent par rapport à la saison dernière. Mercedes a été dominé pendant les essais de pré-saison par Red Bull. Et toutes les séances, hein, Stéphane, depuis le début du week-end, ont été dominés par les Red Bull. À chaque fois, libre 1, libre 2, libre 3, qualif, à chaque fois, Lewis Hamilton a été moins rapide que Max Verstappen. Alors, tantôt de 5 dixièmes, de 2 dixièmes, de presque 8 dixièmes à un moment en libre 3. Sauf qu'à la fin, eh bien, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé devant le Néerlandais. Formidable pour Mercedes, qui passait du statut de favori l'an passé à celui de challenger pour cette première course et qui a réussi à s'imposer. Mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, Stéphane?
Pour l'instant, si. Ils se sont fait vraiment sur un coup de stratégie que Red Bull n'avait pas soupçonné. Andrew Shovlin avait dit samedi soir, il nous reste un train de pneus durs, on verra ce qu'on peut faire avec pour troubler la stratégie de Red Bull sur un 2 contre 1, finalement aussi avec Bottas. Et puis ils ont abattu cette carte, et ce qui a été stupéfiant, c'est que dès que Hamilton les a mis sur sa voiture, ben, il est allé plus vite que Verstappen, qui avait des médiums plus tendres, et il le suivait en début de course à 1 seconde 5, moins de 2 secondes, mais il ne pouvait pas rentrer dans la zone DRS. Et dès qu'il est ressorti des stands avec cette gomme dure, eh ben, en fait c'était fini pour Verstappen. Il était battu, il avait déjà fait l'undercut. Si Verstappen rentrait tout de suite, il ressortait derrière. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un point de bascule. Et on s'est demandé si ça pourrait tenir, et ça a tellement bien tenu que Hamilton a repris en fait des pneus durs dans son relais suivant. Donc deux relais en dur après un relais en médium, et puis Verstappen qui a fait deux relais médium, un relais dur, et c'était là où se situait la force de Mercedes, qui a toujours été une écurie très forte en termes d'exploitation. On dit que la voiture est la meilleure du plateau, enfin c'était ce qu'on avait coutume de dire depuis 2014. Elle l'était, sauf qu'on avait oublié que pour être performant, il faut être aussi très bon en capacité opérationnelle, en stratégie. Et là, ils l'ont été, et c'est cette carte-là qu'ils ont abattue pour mettre en échec Red Bull.
Je crois qu'on est à peu près d'accord pour dire que ils ont très très bien joué le coup sur les pneus, en n'utilisant pas du tout pendant les essais, ni du vendredi ni du samedi, les pneus les plus durs, pour les réserver justement pour les deux derniers relais de Lewis Hamilton pendant le Grand Prix, ce qui leur a donné la possibilité de jouer la victoire, sans quoi ils n'auraient même pas pu avoir cette possibilité, parce que ce n'était pas du tout gagné à partir du moment où ils avaient fait ce choix-là. Il a fallu quand même que Lewis Hamilton déploie tout son talent pour résister au retour, et ensuite durant la bagarre avec Max Verstappen, mais ils se sont au moins donné cette possibilité en n'utilisant pas du tout les pneus durs. Finalement, ils avaient testé ces pneus durs pendant les pré-tests, donc 15 jours avant, et quelque part, ils ont utilisé les pré-tests comme une séance d'essai libre pour le Grand Prix. Là-dessus, c'était vraiment bien joué. C'est là qu'ils ont tiré finalement les enseignements, hein. Le fait que ce pneu le plus dur, le C2, donc, était plus performant sur l'ensemble d'un relais par rapport au C3 qui avait un petit peu tendance à s'écrouler sur la fin de relais. Ce qui a fait dire d'ailleurs, je ne sais pas si ceux qui nous suivent ont vu passer hein, ce tweet de Mercedes capable de tout, y compris de dépanner le porte-conteneur Evergreen bloqué dans le canal de Suez. Je ne sais pas si tu as vu cette photo, Stéphane, avec la Mercedes de Lewis Hamilton qui a donc également dépanné le porte-conteneur et qui a débouché le canal de Suez. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais je trouve que c'est plutôt rigolo. Maintenant, voilà, ils ont fait un superbe coup du côté de Bahreïn. Pour Hamilton, Bottas, lui, il est resté un petit peu sur sa faim. Il est resté presque en rade, si je reste dans le langage maritime.
Oui, alors pour en venir juste une petite parenthèse sur ces questions de pneus, il fallait quand même choisir ces pneus durs alors que la voiture manque de grip à l'arrière, elle est instable. Si on veut récupérer un petit peu d'appui mécanique sur la voiture avec les pneus, on a tendance à mettre des pneus plus tendres. Là, ils ont mis des pneus plus durs. C'est formidable, ce chemin de raisonnement qu'ils ont eu. Alors, je te disais, Gilles, qu'il faut être parfait en exploitation, en stratégie, et Mercedes a souvent coché toutes les cases ces dernières années, sauf pour Bottas. Et sur cette course, je me suis dit finalement, quelle impression s'en dégage de tout ça? Mercedes a un peu pris Bottas pour Barrichello du temps de Ferrari, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné la mauvaise stratégie. Sur son premier relais en dur, ils l'ont fait tourner pendant 14 tours, puis rentrer. C'est proprement incompréhensible. Il était en backup, il était là aussi pour couvrir la stratégie d'Hamilton à partir du moment où Hamilton était rentré très tôt et que Verstappen avait suivi. Lui, il pouvait rester en piste pour avoir un plan B, mais en fait, il est rentré quand même pour prendre ses pneus durs, et puis on l'a laissé que 14 tours, ce qu'il n'a pas bien compris. Il a dit « ma stratégie était trop passive, j'étais beaucoup trop sur la défensive alors qu'il fallait attaquer, ça m'a surpris ». Et il y a une petite explication quand même aigre douce. À l'arrivée, dans la pit lane qui a été filmée, où Bottas dit clairement les choses, et il se fait rembarrer par Toto Wolff qui le renvoie un peu… aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que la victoire est splendide et chacun a envie de l'apprécier, et Bottas arrive avec ses entre guillemets petits problèmes, évidemment il grogne.
Faut dire aussi qu'il a été victime d'un arrêt au stand catastrophique de la part de l'équipe aussi, hein, donc il avait de quoi être un petit peu remonté.
Dommage collatéral effectivement, et c'est là où ils nous ont un peu surpris chez Mercedes, et ils ont fait un arrêt lamentable, 10 secondes 9 à cause d'une roue qui n'était pas changée à l'avant. La voiture était reposée, il a fallu la remettre sur le lève vite. C'est clair que ça, bon, il n'est pas passé à côté de la victoire pour ça, hein. Clairement, non. Sa place était troisième, mais il s'est senti vraiment dans la peau d'un numéro 2, là-dessus. Et il a dit cet hiver, et juste avant le début du championnat, qu'il aimerait bien jouer sa carte personnelle et être un petit peu plus agressive en piste, en course. Eh bien, Mercedes l'a un petit peu muselé de cette façon-là, et je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de liberté cette année, ce qui va peut-être un petit peu l'amener à jouer un petit peu sa carte perso et peut-être moins faire la course Hamilton s'il se sent mis sur le côté.
On évoquera ce point une autre fois, je te propose, Stéphane, parce que c'est intéressant quand même l'attitude de Valtteri Bottas, qui était jusque-là très docile, y compris quand on lui demandait de se sacrifier. Là, il y a peut-être un changement d'attitude. On en parlera, on verra si c'est seulement la première fois et s'il revient finalement dans ce qu'on sait lui, le rôle qu'on lui a attribué chez Mercedes, le pilote numéro 2, clairement, ou bien s'il montre un petit peu plus régulièrement que ça ne lui plaît pas. On verra, c'est un sujet intéressant. On va en revenir à cette question. Est-ce que Mercedes est en sursis? Est-ce que Mercedes a quelque chose dans sa manche pour de nouveau arriver à tirer son épingle du jeu lors de la deuxième épreuve qui aura lieu, je le rappelle, sur le circuit d'Imola?
Ce qu'ils ont dans leur manche, c'est quand même la compréhension des pneumatiques sur lesquelles ils avaient mis beaucoup de critiques l'année dernière. Je vois que là, maintenant, ça ne pose plus de problème. Une fois que Lewis Hamilton a gagné, il avait tiré dessus à boulet rouge. On le rappelle, en fait, l'année dernière, ce qui avait un petit peu affolé Pirelli et puis le paddock, c'est ces crevaisons répétitions parce que les voitures avaient gagné en appui aérodynamique, posaient des contraintes sur les pneumatiques, spécialement en virage, qui étaient devenues insupportables. Et n'ont rien changé pour 2021, c'était prendre le risque d'encore plus de crevaisons. Donc, ils ont levé de l'appui aéro. Pirelli a sorti des pneus qui étaient plus résistants, ce qui n'a pas du tout plu à Hamilton. Et je trouve qu'il a été de mauvaise foi en expliquant que le législateur veut absolument, enfin, cette décision de réduire de 10% les appuis à l'arrière de la voiture, une coupe dans le plancher plus des ailettes un petit peu remontées sur le diffuseur qui réduisait son appui. Dire que tout ça a été fait pour barrer Mercedes, c'était un petit peu déloyal, c'était facile. Certainement que la fin du party mode en qualif s'était ciblée spécialement sur Mercedes par le passé. Là, il faut être beaucoup plus mesuré. Et Hamilton a ajouté quelque chose qui était aussi intéressant, c'est qu'il a dit que le fameux rake, le piqué en fait, qu'a la voiture, qui donnait pour l'instant une voiture assez plate finalement par rapport à la Red Bull, pardon, c'est ça, lui donnait un effet assez plat. Là, ce piqué était remonté à l'arrière de la voiture, peut-être pas de beaucoup, mais ça veut quand même dire que Mercedes avait bien pris note de toutes ces données. Alors maintenant, je crois qu'ils vont sortir apparemment un fond plat modifié pour Imola la prochaine manche du championnat. Ils ont 3 semaines pour bosser là-dessus.
Alors, ce qui a beaucoup fait parler aussi pendant cette manche d'ouverture à Bahreïn, ce sont les limites de la piste. Une controverse qui s'est développée vraiment dès que la ligne d'arrivée a été franchie. Alors, il y a deux choses bien distinctes pendant ce Grand Prix. Le plus visible, c'est lorsque Verstappen, à 3 tours de l'arrivée, revient sur Hamilton, fait une manœuvre de dépassement sur Hamilton et sort de la piste avec les 4 roues dans le virage numéro 4. Donc à ce moment-là, immédiatement, la direction de piste passe le message qu'il doit rendre la place à Hamilton, ce que Verstappen fait obtempère. Et finalement, après la course, il était plutôt en disant voilà, c'est comme ça, avec un petit peu de recul. Finalement, il commence, on l'a vu sur Eurosport.fr, commence un petit peu à dire que c'est vraiment rageant. Et puis il y a un autre point, on a vu aussi circuler sur les réseaux sociaux, allez le chercher, hein, vous allez facilement le trouver, notamment sur Twitter, ce montage où on voit Lewis Hamilton tout seul comme un grand au virage numéro 4 sortir les 4 roues de la piste à 29 reprises sur les 56 tours, ce qui évidemment aurait dû quand même alerter un petit peu la direction de course, qui manifestement regardait ailleurs. Du coup, Red Bull, à la radio, a dit à Max Verstappen, « Bon, bah écoute, tu peux sortir du virage numéro 4, de toute façon, il y en a d'autres qui le font. » La direction de course ne dit rien, pour que finalement, la direction de course se dise, « Bon, là, il faut quand même dire à Mercedes que, attention, on joue un peu. » Ces limites de la piste, il y a quand même un historique, et notamment avec Max Verstappen, Stéphane.
Oui, Gilles, pour faire court, en fait, Max Verstappen, c'est lui qui a posé ces questions de la limite de la piste. Je me souviens qu'en 2016, il y a un départ à Spa, donc à la source, où il passe Vettel sur sa Ferrari à l'intérieur en mettant ses quatre roues quasiment à l'extérieur de la piste, c'est-à-dire en dehors de la bande blanche qui délimite la piste, normalement, ou là où on a seulement le droit de courir, et ça choque personne. Et Verstappen devient un petit peu l'habitué de ce genre de manœuvre jusqu'à se faire rattraper par le règlement à Austin en 2018 parce que, là encore une fois, il coupe un virage, il le court-circuite, donc en fait, il fait moins de distance pour dépasser, en l'occurrence, Raikkonen pour la troisième place. C'est dans l'avant-dernier ou le dernier tour. Et puis, il est dans la cool room, il est troisième. Et puis, on vient le chercher en disant, c'est pas possible, en fait, tu as une pénalité. Et c'est Raikkonen qui est troisième, ce qui était un petit peu logique. Et donc, il avait posé ce cas de figure-là qui avait été réglé. On fait plus court dans un virage, on passe plus court dans un virage pour dépasser. Mais cette question aussi d'élargir sa trajectoire, pour le coup, à l'extérieur pour dépasser un concurrent, donc avec un gain de vitesse, pour pouvoir finir une manœuvre de dépassement, rester en suspens. Et là, elle s'est posée clairement dimanche et avec un traitement un petit peu incohérent, puisqu'on a vu qu'il y avait deux interprétations possibles. Un article du règlement qui interdit de passer à l'extérieur, ou en tous les cas, à titre exceptionnel, on peut le faire, parce qu'on gagne, il y a un gain. Voilà. Alors, le vendredi et le samedi, un garçon comme Bottas a vu plusieurs temps annulés parce qu'il était passé à l'extérieur.
Je crois que c'est 7 ou 8 fois que son chrono a été annulé.
Tout à fait, parce qu'on estimait en fait que ça dopait son chrono et qu'il passait plus vite pour ça. Et bon, temps annulé. Et deux, cette interprétation du samedi, basée sur un gain en temps, on passe dimanche à juste un gain en place. C'est-à-dire, le seul cas de figure qui vaut, c'est quand on regarde un pilote, s'il dépasse un autre, et là on dit, non, en fait, ça l'a aidé à dépasser, donc ça suffit. Donc on a eu ce deux poids deux mesures dimanche, et c'est là qu'est venue cette incohérence.
Alors, d'abord, l'article auquel tu fais référence, c'est l'article 27.3 du règlement sportif de la Formule 1. Je l'ai sous les yeux. Les pilotes doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible pour rester sur la piste à chaque tour, et ne peuvent pas quitter délibérément la piste sans une raison justifiable. C'est là que, en fait, c'est dans cette phrase que tout réside, parce que raisonnablement possible pour rester sur la piste, là, il y a une zone grise qui a été dénoncée par Christian Horner, qui dit que le raisonnablement possible, il va falloir mettre quand même des mots dessus, parce que parallèlement, Christian Horner, il dit que la trajectoire prise par Lewis Hamilton en élargissant, donc, et en allant au-delà, donc en emmenant plus de vitesse pour gagner du temps sur un circuit, soit on fait moins de distance en passant à l'intérieur, soit on en fait plus, mais on garde plus de vitesse. C'était la stratégie choisie par Lewis Hamilton. Et Christian Horner a estimé que le gain était d'environ 2 dixièmes au tour pour le Britannique. Là, on sent quand même que Michael Masi est un petit peu en difficulté. J'ai pas tout à fait la même vision que toi, c'est légitime, sur le fait que, pour moi, la règle, elle a très très bien fonctionné sur le dépassement de Verstappen. Il est sorti des limites de la piste, il a eu un gain visible et en place, donc on lui a demandé de repasser derrière. Là-dessus, la règle, elle a fonctionné. Là où c'est plus compliqué de faire fonctionner la règle, c'est quand il y a un gain en temps, mais où la direction de course finalement ne réagit pas parce que y a pas, c'est pas sur un dépassement, ça frappe moins les esprits. Or, il y a un gain quand même, 2 dixièmes d'après Christian Horner. Quoi qu'il arrive, il y a un gain là-dessus.
Alors, il y a un gain non seulement en temps, mais Hamilton a dit « je l'ai fait pour économiser mes pneus ».
Eh oui.
Donc, c'est là où le gain est beaucoup plus important. Alors, on fait 2 dixièmes x 30 parce qu'il l'a fait une trentaine de fois. Donc, c'est là où ça constitue un vrai
ça fait 6 secondes.
avantage. Voilà. Et puis, la question, effectivement, là où je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, c'est ce deux poids deux mesures. Et effectivement, Masi, qui a un peu fermé les yeux sur cette question-là, parce qu'il utilise cette double lecture, il y a un flou. Alors, on sait qu'il utilise des règles concernant la sécurité pour faire sortir la safety car, il fait des aménagements. Et puis là, on avait l'impression que c'était trop beau. Hamilton, qu'on ne pensait pas dans la lutte pour la victoire, menait un duel fantastique par rapport à Verstappen. C'est ce qu'on nous a vendu après les tests à Sakhir. Tout le monde l'attendait et on l'avait ce duel. Alors, t'imagines, Gilles, que tout de suite, Hamilton commence à s'accrocher au basque de Verstappen en faisant ça. Et puis, on lui interdit de passer large au virage numéro 4. Donc, en fait, il décroche tout de suite. Et là, les fans vont dire, bah, on nous casse le spectacle. Bon, mais pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Rappelez ça, ça a été dit au briefing. Mais bon, étrangement, Hamilton s'est servi d'une certaine mansuétude là-dessus, l'a utilisé jusqu'au bout, jusqu'à l'illogique, en fait. Et ça s'est un petit peu retourné contre Red Bull, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est Red Bull qui l'avait dénoncé. Ce qui me gêne, c'est un petit peu ça, c'est que Michael Masi est devenu un petit peu un modérateur des luttes en piste. Il laisse faire quand ça devient intéressant, et puis il tape des doigts avec sa règle si on sort un petit peu des clous. Et ça laisse un sentiment un petit peu de flottement. Il faudra clarifier cette règle. Je pense que c'est la dernière fois que le cas de figure se pose.
Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, mon sentiment profond, il n'y a pas vraiment de règle à changer. Elle n'est pas si mal faite que ça. Ce n'est pas forcément un problème de Michael Masi. Moi, le fond de ma pensée, c'est que c'est un problème d'infrastructure du circuit. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises et je sais que tu me vois venir, Stéphane. Le vrai problème, c'est l'infrastructure. Il suffit de mettre un bac à gravier à l'extérieur de ce virage numéro 4 et les pilotes n'iront pas y mettre une roue parce que dès qu'ils y mettront une roue, déjà, ils vont salir leurs pneus. Et puis, s'ils vont encore un peu plus loin, ils vont endommager les éléments aérodynamiques, éventuellement même leur fond plat. En tout cas, ça va leur faire perdre du temps au lieu d'en gagner. Donc, c'est simple. Au lieu d'inventer des stratagèmes et des règles et de faire des réunions, prenez un marteau-piqueur, faites un trou, mettez du gravier. La bonne vieille recette qui doit avoir à peu près 70 ans, l'âge de la Formule 1. Et vous allez voir qu'on va régler ce souci. Rendez à la Formule 1 l'esprit de la Formule 1, c'est-à-dire des pilotes qui vont jusqu'à la limite. Mais en bitumant l'extérieur des virages, on éloigne la limite. Les pilotes, ils font leur métier. Ils y vont. Et c'est là qu'on se crée le problème. Donc, remettez un bac à gravier, il n'y aura plus de problème.
Il faut mettre fin à ces circuits PlayStation qui pardonnent tout. C'est venu d'une chose très précise. C'est que
ou on Xbox, a commencé... pour ne pas faire de publicité. Voilà.
On a abaissé les bordures sur les circuits parce que les écuries se plaignaient. Quand un pilote allait un petit peu trop large, ça cassait le fond plat, ça faisait beaucoup de dépenses. C'est vrai. Donc, on les a rabaissés. Donc, les pilotes ont commencé à aller à l'extérieur de ces bordures. Et pour éviter d'autres soucis, on enlevait en fait l'astroturf et puis on a mis des zones bitumées derrière. Comme ça, donc, les pilotes en fait étaient autorisés à aller au-delà de la limite. Et c'est là qu'on s'est dit, on garde ces éléments sécuritaires parce qu'on ne veut pas faire trop de casse et on veut que les pilotes ne soient pas sanctionnés par un écart. C'est vrai que c'est un petit peu trop dommage. Et donc, on va chercher à fixer ces limites, mais on les a mal fixées. Donc, comme tu le dis, la solution, c'est peut-être d'en revenir à des bacs à gravier parce que là, la sanction, elle arrive tout de suite. Et au moins, on sort de ces circuits un petit peu aseptisés. Ça doit être aussi punitif, un circuit.
Donc, on en reparlera, mais je pense que on l'a déjà évoqué, hein, mais cette solution, elle est… je sais même pas pourquoi on en parle encore et pourquoi… Enfin, si, c'est une sorte de. Voilà, on ne veut pas mettre des bacs à gravier parce que ça ne fait pas très, très moderne. Et c'est efficace. Et la modernité, c'est efficace aussi, normalement. Alors, on va passer au troisième point maintenant des flous du volant avec le redressement de Ferrari. Le redressement, justement, on va voir hein, que on reste quand même sur une sorte. J'allais dire d'accident en 2020 pour Ferrari, en tout cas peut-être même de traumatisme. Je ne sais pas si tu m'accorderas ce terme pour la firme au cheval cabré, puisque 2020 a été la pire saison pour la Scuderia depuis 40 ans avec la 6e place au classement des constructeurs. Donc on a vu pendant les tests de pré-saison que tout de suite on a très vite dit non mais ça y est, le problème de déficit moteur c'est réglé, le problème de la traînée aérodynamique, de la vitesse de pointe, c'est bon, ça y est, c'est fait. On a l'impression qu'on avait sorti la voiture du box et qu'on a dit ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. Bon, je grossis un peu le trait. Voyons le verre à moitié plein d'abord, s'il te plaît, Stéphane. Les Ferrari ont franchi toutes les deux la ligne d'arrivée. Déjà, c'est déjà pas si mal. Leclerc a fini sixième. Sainz, la nouvelle recrue, a terminé à la huitième place. Ça fait 12 points ramenés de Sakhir. Ferrari n'avait fait aussi bien ou mieux qu'à 5 reprises sur l'ensemble de la saison dernière. Les deux voitures dans les points, ça s'est produit que 5 fois aussi l'an passé, surtout qu'on était dans un schéma classique. Hein. Les deux Mercedes sont à l'arrivée, les deux Red Bull sont à l'arrivée, les deux McLaren sont à l'arrivée, il n'y a pas eu un cataclysme. Ça, c'est finalement histoire de dire, bon bah, c'est mieux que l'an dernier. Oui, mais là, il y a des esprits qui observe, et je sais que le tien en est un, est particulièrement aiguisé, qui nous dit « oui mais ». Alors on attaque, Stéphane, le « oui mais » de Ferrari.
Alors Ferrari a bien dit qu'ils ont encore beaucoup de travail, mais que les progrès étaient significatifs. On nous met en avant, comme tu l'as dit, ce gain en termes de puissance. 27 chevaux, c'est énorme quand même. Hein. Sur un moteur, ça veut dire qu'il s'était aussi loupé sur celui de l'année dernière. En tous les cas, ils ont du mal à rattraper, ce fameux moteur qui faisait polémique en 2019. En qualification, Leclerc a terminé quatrième. Je crois qu'il avait fait ça 4 fois l'année dernière et il était à 68 centièmes. Voilà. Et on a regardé un petit peu plus précisément quels étaient les écarts l'année dernière. Et quand la meilleure Ferrari, ou quand il y avait une Ferrari en Q3, elle était en moyenne à 95 centièmes, presque une seconde de la pole position. Donc cette année, c'est 68 centièmes. On va dire gentiment que c'est grosso modo un tiers de gagner, donc ce qui est quand même pas rien. Bon, quand on les écoute chez Ferrari, ils ont plutôt réduit l'écart de moitié. C'est pas tout à fait ça. Voilà. Il y avait d'autres points, effectivement. Tu l'as dit, depuis, c'était pas arrivé depuis l'année dernière aussi, de Ferrari en Q3, c'était Silverstone, le premier Grand Prix à Silverstone, Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc là-dessus, tout de suite, dès la première manche du championnat 2021, on remonte le temps presque en début de saison l'année dernière pour faire aussi bien. Donc ça, c'est vraiment positif. En revanche, il faut un petit peu tempérer ce bilan aussi en course parce que les Ferrari, la meilleure des Ferrari finit à 59 secondes, pour ne pas dire une minute. Hein. Et puis Sainz, je ne sais pas, il est encore un petit peu plus loin. Il est huitième. Donc, ça ressemble aussi un petit peu à ce qui se faisait l'année dernière. Et on a regardé aussi un petit peu quand est-ce que les Ferrari, l'année dernière, avaient fini à une minute. Donc déjà, ce qui est un petit peu embarrassant et encore plus à un tour. Un tour comme l'année dernière, par exemple, à Bahreïn, les deux Ferrari étaient à un tour. Les deux Ferrari étaient à un tour aussi en Hongrie, à Abu Dhabi. Et en tout, il y a 10 Ferrari qui ont franchi la ligne d'arrivée l'année dernière, à plus d'un tour du vainqueur. Et les Ferrari ont franchi l'arrivée aussi à 4 reprises l'année dernière avec une minute de retard. Donc, ce qui était un standard l'année dernière se reproduit cette année. Donc, je ne sais pas exactement dans quelle mesure on peut encore dire qu'il y a un progrès. Alors, attention, on ne parle pas d'un tour de retard, parce que sur un circuit comme Bahreïn, le tour est d'une 30. Si la Ferrari arrive avec une minute de retard, ça veut dire que par rapport au Grand Prix de Bahreïn de fin de saison dernière, on a gagné finalement un tiers
c'est ça.
De temps. Hein. Ouais. Donc, ce qui est pas mal. Enfin, on a gagné, oui, c'est ça, on a gagné 30 secondes sur une minute 30. Donc là encore, on retrouve le gain en qualif, tout simplement.
C'est ça, le calcul que tu fais sur le temps qu'on a récupéré en qualif, il est plus ou moins cohérent avec le temps récupéré sur l'ensemble de la course. Je vérifiais là pendant que tu faisais ta démonstration, Sainz il a terminé à 1 minute 07
oui,
de Lewis Hamilton.
Sachant alors, que l'année dernière aussi, Ferrari a parfois terminé à 1 minute parce que la safety car est intervenue. Et donc ça casse les écarts forcément, donc le bilan serait peut-être un petit peu plus contrasté si on y regardait de près. Mais il y a en tous les cas un progrès de 33%, enfin d'un tiers, en grosso modo.
C'est ça, on a réduit d'un tiers le déficit des Ferrari. L'autre bon point qu'on avait déjà vu hein, pendant les tests de pré-saison et qui s'est confirmé là pendant ce week-end de la première manche, c'est finalement le bon travail, la bonne collaboration qu'il y a eu entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Ce qui n'était pas évident parce que Clairement, il va y avoir à un moment ou à un autre rivalité entre les deux hommes. Ils sont extrêmement ambitieux tous les deux, mais ça a bien travaillé. Et finalement, les informations, les datas, les sensations ramenées par l'un et l'autre sont quand même assez complémentaires. Et c'est sans doute un point sur lequel Ferrari peut travailler, alors que l'an passé, avec Charles Leclerc et Sébastien Vettel, finalement, il n'y avait qu'une voiture à exploiter.
Oui, et d'ailleurs, Mattia Binotto a envoyé un petit tacle à Sébastien Vettel en disant que cette année, enfin, il peut compter sur deux pilotes à la Scuderia Ferrari. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, effectivement, on a deux pilotes, surtout en fait, qui ont le même ADN de pilotes, qui réclament les mêmes choses sur la voiture, qui règlent la voiture de la même façon. Donc, effectivement, ça fait deux fois plus de data exploitables pour comprendre certaines situations, des pilotes qui échangent. Et ça, c'est très, très bon pour Ferrari aussi, parce qu'on sait qu'ils ont besoin de tirer des bons diagnostics. Il y avait tout un tas de problèmes aussi, des corrélations entre les données en soufflerie et ce qu'ils obtenaient sur la piste l'année dernière. Et puis, un autre point que Mattia Binotto a relevé, il a dit, on a très bien fait aussi en termes de pit stop. Alors, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu quand même quelques couacs retentissants. Qu'il fallait gommer déjà cette année, sans parler de dette exceptionnelle. Et j'ai regardé un petit peu le bilan aussi des meilleurs arrêts dans chaque écurie. Red Bull est encore en tête avec un arrêt de 1 seconde 93 pour Verstappen. Et Ferrari est huitième dans la hiérarchie avec un arrêt de 2 secondes 45. Je crois que c'est pour Charles Leclerc. Et il n'y a que deux écuries derrière, qui sont 5 dixièmes derrière, je crois que c'est Alfa Romeo, et puis c'est Alpine, 6 dixièmes derrière. Donc là-dessus, si on fait des pit stops propres, il va falloir être un petit peu plus compétitif maintenant. Ça, c'est aussi un axe de travail pour la Scuderia Ferrari.
En tout cas, après ce premier Grand Prix de la saison, Ferrari occupe la quatrième place au classement des constructeurs, derrière Mercedes évidemment, derrière Red Bull, derrière McLaren, hein, qui pour l'instant a pris la troisième place de ce championnat. Et à n'en pas douter, il y aura déjà une pression particulière pour la Scuderia, parce qu'on sera à Imola dans 15 jours, dans un peu plus de 15 jours, et que forcément, les tifosi seront là pour rappeler à Ferrari qu'il ne faut pas effacer un tiers du déficit, mais qu'il faut essayer de créer, d'une manière ou d'une autre, un avantage. La problématique, et on va faire court là-dessus, Stéphane, la problématique, c'est qu'on sait qu'il y a une nouvelle réglementation qui va arriver en 2022, que ça demande énormément de ressources à toutes les équipes. Alors, combien de temps Ferrari va-t-il choisir de consacrer son énergie à faire progresser cette voiture qui compte encore, on va dire, 6 dixièmes de retard par rapport à la pole position sur un tour? Et à quel moment on va dire, bon, écoutez, on n'effacera pas le reste du déficit, donc on passe à 2022 et on essaye de faire une voiture qui est vraiment est dans le coup. Ça, c'est la problématique pour toutes les équipes, mais tout particulièrement pour Ferrari.
Mattia Binotto l'avait dit l'année dernière, on verra ce que donne la nouvelle voiture, si elle est compétitive, si elle mérite d'être développée. Si elle n'est pas compétitive, il avait dit très clairement, on arrêtera le développement. Mais d'autres directeurs d'équipe ont dit que les écuries s'arrêteraient plus tôt que d'ordinaire, arrêteraient le développement vraiment des voitures. Je ne serais pas surpris que ce soit acté juste avant la pause en août,
Stéphane.
voilà, pour se concentrer vraiment sur 2022.
Moi, je serais même pas surpris que ça arrive un petit peu plus tôt. On verra. Ça dépendra tellement aussi des situations. Je pense que Mattia Binotto peut pas trop se permettre d'arrêter là, parce que ça serait un aveu d'échec. Et ça en ferait deux de suite, qui serait quand même très très problématique. Mais ça, évidemment, on a pas mal de semaines et de mois à surveiller tout ça. Voilà les thèmes qu'on voulait évoquer ensemble aujourd'hui dans les fous du volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. Je suis sûr que tu vas finir par le connaître par cœur toi aussi, Stéphane. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Rien que pour Stéphane, ça vaut 5 étoiles. Et à vous abonner, comme ça vous
Non
recevrez les
mais
nouveaux épisodes
c'est sympa, mais
directement sur votre smartphone.
mets-toi dans la boucle aussi quand même, ça me gênerait.
C'est une équipe. Et puis
Voilà.
aussi pour Adrien Yo, hein, qui travaille en coulisses, vous ne le voyez pas, mais il veille à ce que tout se
Et
passe bien et à ce qu'on ne soit pas trop
Quentin,
bavard. Et
qui nous
aussi
prépare aussi les visuels qu'on peut voir
sur les
sur les vidéos.
vidéos que vous ne voyez pas évidemment sur le podcast, mais vous
Non,
pouvez
mais
aller
si.
sur le site eurosport.fr et voir les vidéos et tous les visuels préparés par Quentin. On a fait le tour, Stéphane, après cette première manche. Il y aura plein de choses autres à évoquer, mais on a encore un rendez-vous la semaine prochaine. On a deux autres rendez-vous avant le prochain Grand Prix qui sera donc à Imola, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ça te va?
Oui, tout à fait, Gilles. Il y a encore plein de choses à dire. Il y a ce 22 Grand Prix. Ça va être passionnant. Cette saison va changer radicalement des précédentes. C'est certain, on va avoir un vrai duel entre deux pilotes appartenant à deux écuries différentes.
On reparle de tout ça la semaine prochaine. Et
avec plaisir.
D'ici là, mon cher Stéphane,
on coupe
le contact. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.